Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
Exposition et vente annulées, entraînement et concours suspendus jusqu'à nouvel ordre. Avec le confinement des volailles imposé dans plusieurs pays européens en raison de la grippe aviaire, sale temps pour les coulonneux, entendez les colombophiles. Ces passionnés de pigeons voyageurs qui, dès les premiers beaux jours du printemps, entraînent leurs oiseaux à rapatrier leurs colombiers en les libérant de plus en plus loin de chez eux. Un sport que je vous propose de découvrir avec d'autant plus de plaisir que je suis moi-même colombophile à mes heures perdues. Et quand l'amour du pigeon est mis au service des plus pauvres, c'est d'une vente de charité de pigeons voyageurs que je vous parlerai ensuite, qui chaque année vient en aide à des missionnaires. Pas de doute, les temps sont moroses pour les colombophiles. Fin janvier, l'une des grandes expositions internationales de pigeons voyageurs tournait au drame en Pologne. Le toit du hall d'exposition s'effondrait sous le poids de la neige, faisant 65 morts. Et voilà maintenant la grippe aviaire. Même si les scientifiques reconnaissent que le pigeon n'y est pas particulièrement sensible, on comprend la prudence des autorités sanitaires lorsque l'on connaît la capacité des virus à s'adapter et la virulence de cette souche N5N1. Pour l'heure, les pigeons peuvent toujours voler autour de chez eux, mais aucun entraînement, aucune compétition ne devrait être autorisée jusqu'à nouvel ordre dans plusieurs pays européens. Ces compétitions, de véritables courses qui se déroulent sur des distances pouvant aller jusqu'à 1000 km, se déroulent durant le printemps et l'été. Les pigeons sont alors emmenés à des centaines de kilomètres de leur colombier dans des camions spécialement aménagés. Là, ils sont tous relâchés au même moment. Et c'est le pigeon qui a proportionnellement mis le moins de temps pour rentrer à son pigeonnier qui remporte la course. Ces colombophiles, qui sont-ils ? En Europe, ils sont près de 300 000 passionnés, inscrits ainsi dans quelques 10 000 clubs. Un hobby, une passion qui s'est essentiellement développée depuis la fin du 19e siècle dans le nord de la France et en Belgique, loisir du monde ouvrier au temps de l'âge d'or des charbonnages et des filatures. Cette passion s'est ensuite étendue à la Grande-Bretagne, la Hollande, l'Allemagne, mais aussi la Pologne, un pays où ils ne sont pas moins de 40 000 aujourd'hui. Même si c'est en Chine, et oui, qu'ils sont les plus nombreux, car la passion colombophile s'est répandue de par le monde. Christian Goulem est le vice-président de la Royal Fédération Colombophile Belge. Nous vous faisons partager notre passion.
Ce sport, c'est avant tout l'amour du pigeon voyageur. Donc il y a deux aspects dans le sport colombophile. Il y a un premier aspect qui est l'aspect de l'élevage, parce qu'être colombophile, c'est avant tout aimer ses pigeons et essayer de former une colonie capable de se distinguer dans différentes épreuves. Et ensuite, il y a l'aspect sportif, ce qui consiste dans le fond à envoyer ces pigeons par camion, par train, cela dépend des pays, et de les envoyer à différentes étapes. Et puis, il y a ce qu'on appelle la course de vitesse. Et le classement est effectué par vitesse décroissante. Et le premier, évidemment, c'est le pigeon qui a réalisé la plus grande vitesse du point de départ. Au colombier, on a un espace. On divise par le temps et on a la vitesse.
Alors en l'occurrence, donc, les pigeons donc, sont rassemblés dans un local colombophile. Chaque amateur colombophile amène ses pigeons. On les bague avec une bague en caoutchouc.
Hein,
et qui sera donc la bague qui sera enlevée par la suite pour constater l'heure d'arrivée dans un appareil qui est en fait un genre de réveil ou d'horloge.
Ou une horloge pointeuse, on peut appeler ça comme ça.
Tout à fait.
Oui.
Les pigeons donc sont transportés par camion jusqu'à un point de lâcher.
Oui.
Et tout le monde a en tête, au fait, pour que les choses soient plus claires, qu'on y mette des images, le film Les convoyeurs attendent. Il y avait ces images fantastiques d'un lâcher de pigeons, je crois, à quelques 50 000 pigeons. C'était quelle étape, ça, dans ce film ?
C'était le lâcher de Bourges, qu'on appelle d'ailleurs traditionnellement en Belgique le Bourges des prisonniers, parce que c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que des colombophiles ont voulu donner un nom particulier à cette étape et de donner le bénéfice, justement, pour tous ces prisonniers de guerre qui ont donné leur vie ou bien qui sont revenus blessés des différents camps de prisonniers de concentration. Il y avait là un aspect de charité déjà qui commençait pour les colombophiles belges.
Donc la colombophilie est née en Belgique. On parle carrément des années, enfin, du 19e siècle, je crois. Hein.
Oui, disons que la province de Liège a été le berceau de la colombophilie en Belgique. Et c'est vrai que différents amateurs ont eu envie, je suppose, en lâchant leurs pigeons pas tellement loin de chez eux et puis en augmentant les distances, dans le fond, de comparer un petit peu la valeur de leur colonie. Cela se faisait d'une manière tout à fait, alors vraiment amateur, et ça c'était vraiment le début. Et puis après, tout ça s'est mis un petit peu en place. Il y a eu des sociétés, comme on dit dans la province de Liège, des fédérations qui se sont créées. Donc ça s'est étendu comme ça. Et jusqu'au début du XXe siècle, on a eu un essor de la colombophilie en Belgique, qui a été freiné évidemment par la Première Guerre mondiale. Freiné, mais en même temps qui a été renforcé, parce que ces pigeons soldats ont réalisé des exploits énormes pendant la crise, malheureusement, de cet événement tragique qui était la Première Guerre mondiale.
Alors là, justement, oui, on se rappelle, d'après mes lectures, si elles sont bonnes, d'un certain pigeon, le Vaillant, c'est le nom qu'on lui avait donné, qui avait porté finalement le dernier message du fort de Vaux. C'était le message du commandant Rénal, et qui écrivait « C'est mon dernier pigeon », et ces soldats étaient en fait, je crois, dans les tranchées en train de mourir asphyxiés par le gaz moutarde. Et c'était Verdun, c'était le 4 juin 1916. Voilà. Alors revenons donc à l'extension au cours du temps de ce sport, de ce hobby. Donc de la Belgique, ça s'étend à la France, puis à l'Allemagne, la Hollande, la Pologne, on peut en parler aussi. Aujourd'hui, je crois que la Pologne est l'une des fédérations les plus puissantes, hein. Je crois que c'est l'Allemagne la plus puissante aujourd'hui.
Actuellement, c'est en termes de membres, hein, de nombre de membres, c'est en Chine qu'on trouve le plus grand nombre d'amateurs. Et ensuite, c'est vrai que c'est l'Allemagne, hein, qui arrive en deuxième position. Alors la Pologne, puisqu'elle est au fait de l'actualité avec cet accident dramatique, c'est par contre une des fédérations qui augmente le nombre d'amateurs constamment tous les ans.
Alors en matière de fédération qui s'étend et de colombophilie qui gagne le cœur des populations, il y a un pays tout à fait atypique, je crois, qui est le Portugal.
Au Portugal, on leur offre des terrains publics où les amateurs colombophiles peuvent, l'un à côté de l'autre, hein, établir leurs pigeonniers, pour leur permettre de développer leur passion.
Plus que tout aussi, pour devenir colombophile, je dirais, comme vous et moi, il fallait tomber dedans tout petit. Et donc, au Portugal, ils développent les pigeonniers dans les écoles, avec des groupes d'enfants qui s'occupent des pigeons dans leur moment de pause durant l'école. Revenons à la Chine. Vous avez dit que ce pays donc, avait le record de colombophiles. Je crois que c'est 400 000 colombophiles. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, en Chine, ce sport continue à s'étendre, parce que même si la réalité des villes et des grandes villes prend de plus en plus d'importance, il y a encore une vraie campagne, je dirais, la campagne et encore la campagne des paysans, et que ce sport, finalement, chez nous, qui était un sport quand même d'ouvriers surtout, c'est un peu perdu à cause de ça aussi. Les réalités des loisirs ont finalement eu raison un peu de ce sport-là.
Mais oui, ce qui est merveilleux en Chine, c'est que ces gens ont encore la possibilité, eux, d'avoir des réglementations urbanistiques qui sont beaucoup moins contraignantes que les nôtres. Alors c'est vrai, quand on voit certaines images en Chine, on peut bientôt établir des petits colombiers, même sur le toit d'une maison, d'un immeuble. C'est merveilleux, on peut bientôt les placer un petit peu où on veut. Chez nous, dans nos campagnes même, c'est bien souvent des interdictions. Alors c'est ça aussi que nous perdons des amateurs dans nos différentes campagnes.
Une autre difficulté vient-elle également du fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que ce sport s'est beaucoup professionnalisé, entre guillemets, et que du coup, il est devenu très coûteux quelque part, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle.
C'est vrai que, par essence, on dit toujours que le sport colombophile, le pigeon, c'est le cheval du pauvre. C'est un petit peu l'expression, hein, pour montrer les gens plus riches pouvaient jouer avec des chevaux, et les gens plus simples au niveau pécuniaire, mais devaient se contenter des pigeons. C'est vrai que dans nos pays et dans la plupart des pays, il y a maintenant des gens qui se sont investis et qui ont investi de l'argent de manière à pouvoir avoir des origines de pigeons de plus en plus valables, et pour ça, il y a automatiquement une élimination des gens qui sont nettement moins favorisés au niveau financier. Ça, c'est la vérité, c'est ça le malheur.
Alors, le professionnalisme avec le problème du doping, du dopage des pigeons, et là, comme dans le sport des humains, je dirais, des réglementations ont dû être prises, parce que c'était devenu un véritable fléau, je crois.
Tout à fait, et c'est vrai que que nous, dans notre pays, on va revenir maintenant encore avec une page d'histoire, c'est que la Fédération colombophile belge dépendait du ministère de la guerre. D'ailleurs, au départ, on ne disait même pas, hein, comme maintenant le ministère de la Défense nationale, on parlait de ministère de la guerre. Le pigeon était réquisitionné en cas de conflit. Mais maintenant, nous dépendons du ministère de la Santé publique. Et ce ministère nous a imposé de faire la chasse, non pas aux sorcières, mais la chasse aux dopeurs.
On parle parfois de chiffres astronomiques pour des ventes de pigeons. Alors, est-ce que c'est un mythe que celui de pigeons vendus ou achetés très très cher?
Je crois qu'il faut être réaliste. Dire que des pigeons ne se vendent pas cher, ce serait mentir. Tant il est vrai que sur une épreuve mythique comme le concours de Barcelone, le premier prix international a vraiment une réelle valeur. Mais cette valeur, elle n'est jamais que parce que certaines personnes ont envie de mettre le prix pour ces pigeons.
Quelle est la distance finalement à parcourir pour les pigeons qui sont libérés à Barcelone l'été pour rentrer par exemple en Belgique?
Le pigeon, il parcourt facilement 1000 km sans aucun problème. C'est quand même le concours qui a la distance la plus élevée. Moi, je peux vous dire que le pigeon, quand j'en mets un à Barcelone, il vole 1031 km, 930 mètres, pour être précis. Donc, comme j'habite vraiment la frontière française, il faut s'imaginer que les Hollandais, qui sont derrière nous, et même les Anglais, on peut leur rajouter encore 200 et 300 km. Hein.
Alors là, il est surprenant, justement, que sur ces grands concours, Barcelone étant surnommée la reine des étapes,
oui.
Il y a, justement, on en parlait tout à l'heure, deux types, quelque part, de colombophiles qui s'affrontent, à savoir les professionnels, mais professionnels dans le sens qu'ils ont avec eux tout l'attirail, je dirais, médical, vétérinaire pour avoir leur champion au top du top et qui ont des colonies gigantesques qui peuvent arriver jusqu'à 500, 600 et parfois 1000 pigeons et qui engagent des contingents élevés de pigeons sur cette étape de Barcelone, jusque parfois une centaine de pigeons. Et puis on a le colombophile, je dirais, plus amateur qui, pour cela, n'est pas le moins expert et qui engage deux ou trois sujets et qui va aussi, lui, peut-être se classifier. Est-ce qu'on a des exemples, par exemple, que vous connaissez?
Moi, dans le Tournaisie, puisque j'habite le Tournaisie, nous avons un ami commun qui quand il a marqué, il a réalisé un exploit sur Barcelone, mais sa saison, elle est merveilleuse, elle est réussie.
Alors, est-ce qu'on peut le citer, cet ami commun, une manière de lui rendre hommage et de le saluer au passage?
Oui, bien sûr, c'est Marcel Lequeuche, qui adore ses pigeons, qui vit pour ses pigeons, mais qui ne leur pardonne pas grand-chose. Hein.
Et surnommé aussi, pour la dureté avec laquelle il mène sa colonie et ses pigeons, le bourreau de Béthune.
Absolument, ça c'est un amateur qui est très exigeant avec lui-même et automatiquement avec ses pigeons. C'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de sa colonie.
Et si cette passion du pigeon pouvait aider quelques amis missionnaires en Afrique ou en Amérique latine? C'est le projet fou qu'a imaginé il y a une vingtaine d'années un colombophile italien, Gino Zanni. Avec un petit groupe d'inconditionnels, Andrea Corsini, Paul Lesage, pour ne citer qu'eux, il a réussi au fil des ans à convaincre les meilleurs colombophiles de Belgique, de Hollande, d'Allemagne et du nord de la France d'offrir des pigeons pour une vente de charité organisée chaque hiver dans le nord de l'Italie. Et vu la bonne cause, ça marche. Ce sont ainsi quelques 150 pigeons qui sont vendus chaque hiver aux enchères pour un montant qui dépasse les 35 000 euros. L'intégralité de la somme est chaque fois répartie entre divers projets menés par des missionnaires, qu'ils soient religieux ou laïcs, que nous connaissons bien. Marta et Armando Zappa, qui travaillent sur les contreforts des Andes péruviennes à Tomanga, nous les aidons pour un projet de vaches laitières. Sœur Auxilia, au milieu des Indiens paraguayens, l'orphelinat de Siget en Roumanie, animé par des capucins, Maria Rosa Bolzoni en Éthiopie, dans son centre de réhabilitation pour enfants handicapés à Tazza, le père Giuliano Pini en Sierra Leone, ou le père Aristide Guerra en Érythrée, ou encore le groupe missionnaire diocésain de Reggio Emilia qui gère l'hôpital de Ampasimanzeva à Madagascar. Nous y avons rejoint Matteo Caprotti qui y travaille bénévolement.
Nous sommes basés dans le sud-est de Madagascar, exactement dans la province de Ferraranzou, sur la côte, à peu près une quinzaine de kilomètres de la mer. Et là-bas, il y a un hôpital de la diocèse de Ferraranzou qui est appuyé par la diocèse de Reggio Emilia. Donc, dans l'hôpital, il y a une équipe missionnaire qui est composée par quatre sœurs, tout malgache. Après, il y a trois volontaires. Un volontaire qui est chargé de travailler au niveau de l'hôpital. Le deuxième, c'est un missionnaire italien qui est à Madagascar depuis 30 ans. Et il est le directeur de l'hôpital. Après, il y a moi qui suis chargé des activités sur le territoire. Donc, on peut dire que la zone d'Ampasimanzeve est une des zones plus enclavées de Madagascar. Les réseaux routiers, il est praticable, on peut dire, 6 mois pendant l'année. Donc, les déplacements sont vraiment difficiles. Et c'est pour ça que l'hôpital, dans les dernières années, il a développé un service de soins à domicile pour, dans certaines mesures, faciliter la prise en charge des malades, parce que la plupart des cas, elle arrive à l'hôpital quand on peut dire que c'est trop tard.
Alors, est-ce que cette réalité, finalement, de la pauvreté de Madagascar provoque, entraîne des pathologies tout à fait spécifiques au-delà des maladies dont nous pouvons tous souffrir?
Oui, en effet, on a à peu près 18 000 consultations par année au niveau de l'hôpital. Après, la première cause, d'habitude, sont les palous et les diarrhées, mais spécifiquement pour la zone d'Ampasimanzeve, il y a la filariose lymphatique. C'est une maladie qui est source d'handicap. Donc, les gros jambes, en français, on les appelle nappe d'éléphant et l'hydrocèle. Donc, ce qu'on a fait, c'est de les prendre en charge au niveau des villages. Ça, c'est une typique maladie de la pauvreté, parce qu'en effet, c'est surtout une maladie de la brousse des zones enclavées. Et en effet, malheureusement, on a découvert que Madagascar, c'est un des pays plus endémiques à la maladie, et la zone d'Ampasimanzeve, c'est peut-être, on peut dire, la zone plus endémique à la filariose lymphatique dans le monde.
Par quoi est-elle provoquée? Est-ce qu'elle est provoquée par un moustique?
Oui, c'est le même vecteur que le paludisme. Donc, on a reçu des appuis par l'Organisation mondiale de la santé. On est en train de déposer des demandes de financement aux autres bailleurs, notamment à la communauté européenne, parce qu'en effet, les vecteurs, c'est la même. Et donc, en prenant en charge, distribuant les moustiquaires, on fait la prévention du paludisme et de la filariose lymphatique.
Les colombophiles italiens, chaque année, aident à leur manière, petitement, mais sûrement, cet hôpital de Ampasimanzeve. Au fil des ans, il y a eu pas mal de dons, notamment pour assurer les médicaments, pour installer des panneaux solaires, pour compléter la salle de chirurgie, notamment pour construire une citerne, l'année dernière exactement pour un générateur d'électricité.
Oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Les groupes électrogènes, ils sont en marche depuis, je crois, 3 mois, parce qu'en effet, entre qu'ils sont envoyés de l'Italie arriver, après, une fois qu'ils arrivent en capitale à Tananarive, il faut un certain temps pour faire arriver sur place en Ampasimanzeve. On peut dire qu'on est bien aidé au niveau de la fondation médicale.
Alors, ça semble des aides ridicules pour les pays européens. Ces petites aides-là, dans une réalité comme la vôtre, ça change parfois du tout au tout le travail.
Oui, on pourrait dire un petit exemple, ce sont les panneaux solaires. Avant, nous avions des frigidaires qui marchaient avec le pétrole. Donc, je sais pas, en Europe, on n'est pas habitué à ça, mais il demande un entretien qui est vraiment difficile. Au contraire, avec les panneaux solaires, c'est très simple.
Ça a changé la vie.
Oui, on peut dire oui. Comme je vous ai dit, on a reçu des groupes électrogènes parce qu'il n'y a rien de, pas d'électrification, donc on fait marcher des groupes pour pomper l'eau de la rivière.
Matteo, donc vous êtes volontaire dans cet hôpital. Ça veut dire quoi être volontaire dans cette réalité-là? C'est un engagement de foi aussi?
Oui, en effet. Alors, ce que tout le monde le demande, c'est bien sûr 2 années de gratuité. Et on reçoit 50 euros par mois comme frais personnel, les tabacs, les cigarettes, des trucs comme ça. Mais surtout, il demande un témoignage au niveau de la population. Pas forcément un témoignage religieux, mais plutôt un bon témoignage d'être un bon chrétien, parce qu'en effet, un des objectifs d'Artem, c'est d'envoyer des volontaires pour partager la vie des malgaches dans le cas de Madagascar. En effet, on est habitué à vivre en famille avec des sœurs, avec des malades. Même aussi dans l'hôpital, il n'y a pas la maison des volontaires, il y a des chambres qui sont éparpillées au niveau de l'hôpital. Donc, une fois qu'on ouvre la porte, on est en contact avec les personnes, les habitants de la zone d'Ampasimanzeve. Et beaucoup de fois, les gens disent, ce n'est pas plutôt ce que tu fais, mais elle est faite d'être avec nous. Qui nous rappelons.
Ça fait combien de temps que vous êtes là?
4 années.
Mais pas de regrets?
Non, pour le moment, non. pas du tout.
Autre missionnaire de nos amis, le père Giancarlo Nava. C'est dans la petite ville paraguayenne de Capitanbado, sur la frontière avec le Brésil, qu'il tente d'humaniser un quotidien de tous les trafics et de toutes les violences. Notre aide, si petite soit-elle, lui est d'un grand réconfort.
Je me trouve dans une ville à la frontière avec le Brésil. Ma paroisse à 100 mètres de la frontière. Dans une situation particulière, pour la raison que est une localité où l'État paraguayen est absent, où les gens nécessitent de tout.
Une ville de frontière où l'État est absent, cela suppose un endroit de toutes les corruptions, de tous les trafics entre le Paraguay et le Brésil. Ça veut dire également beaucoup de violence, je suppose.
Justement, vous ne connaissant pas la situation, avez dit la vérité. Et en Capitanbado, dans cette localité, on cultive la drogue, la marijuana. Il est un lieu où soit la mafia brésilienne et paraguayenne lutte pour le trafic des drogues et des armes. En connexion, nous pensons avec Bolivie, Colombie, etc. Pour cela, la situation que nous vivons est une situation de grande violence. Les gens, les paysans, les campesinos sont obligés à travailler dans la drogue, dans conditions très difficiles.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un endroit où finalement la vie n'a pas beaucoup de valeur, où finalement...
La vie n'a pas de valeur. Hein. La préoccupation de tout le monde est de se défendre contre l'autre. Tout le monde tient une arme dans sa maison. Est suffisant un petit problème pour déclencher une réaction grande et irréparable también.
Est-ce à dire que votre travail et votre apostolat consistent surtout à célébrer des funérailles?
Le 90% de funérailles que j'ai fait sont des personnes qui ont été tuées avec les armes. C'est la situation. Les paysans sont obligés de travailler. Il n'y a pas d'autre travail. Pour cela, j'ai dit que l'État est absent. Il n'y a pas d'autre travail. Et l'unique travail est la cultivation de la drogue. Et maintenant, il y a des gens qui sont en train de réactionner, d'essayer de faire pas mal de choses. Et pour cela que nous sommes en train d'aider afin qu'ils puissent rencontrer un travail honnête. Et cela, ce n'est pas facile.
Je comprends. Est-ce qu'il est facile, justement, dans cette réalité de pauvreté et finalement de trafic de la drogue, d'être écouté, d'être entendu par la population? Est-ce qu'on n'est pas toujours un peu en porte-à-faux, puisque la vie est tellement difficile, les besoins sont énormes? Est-ce qu'il est facile d'avoir la bonne parole, je dirais, au milieu de tout ça?
Je crois qu'il y a, dans toutes ces situations, il y a la possibilité d'annoncer une parole d'espérance, une parole de vérité. Et pour cela, nous continuons.
On l'aura compris, cette situation est difficile. Elle existe et donc il faut l'affronter. Est-ce que l'aide financière ou autre des colombophiles italiens, même si elle est modeste, est-ce qu'elle est importante pour vous, alors que vous êtes là-bas dans cette réalité difficile?
L'aide que nous recevons de toutes parts, et ce cas de colombophiles italiennes, a été une aide non seulement matérielle, une aide morale. Et l'aide a été pour construire un puits, pour donner de l'eau potable. Et cela a été très important. Donner aux gens la possibilité d'améliorer sa propre vie et de lutter pour améliorer sa propre vie entre dans notre évangélisation. Il y a la possibilité de changer non seulement la situation de cette petite ville, de cette petite zone du Paraguay, sinon du monde entier. Et l'Évangile donne l'espérance, non seulement l'espérance, la force pour changer sa propre vie et la vie du monde entier.
Fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.org. À la semaine prochaine.